7 milliards. La solution car les papilles, c'est nous laisser fumer groupir.
C'était Marcel et son orchestre qu'on applaudit bien fort. Marcel et son orchestre, la 7e compagnie en Jamaïque. Voilà, bon, allez, on va retourner à l'actu. Alors, comme je vous disais en début d'émission, il y a une émission de télé sur TF1 qui se prépare, une émission présentée par un journaliste qui s'appelle Harry Roselmack et qui donc sont en train de monter un reportage sur l'usage du cannabis récréatif en France, vous avez bien entendu, récréatif, et qui, donc l'équipe cherche des gens qui seraient d'accord pour témoigner, donc des adultes, hein, intégrés, tout ça, qui seraient d'accord pour témoigner, voilà, des gens qui cultiveraient éventuellement pour leur usage, des gens qui seraient d'accord pour parler de leur pratique anonymement ou non, des hommes ou des femmes d'ailleurs, avec ou sans enfants, peu importe. Si parmi les auditeurs et auditrices de Cannabis Circus, il y a des personnes qui se sentent de participer à ce genre de reportage avec toutes les précautions à prendre et tous les risques que cela comporte, vous pouvez contacter de la part du cirque un certain Aurélien à l'adresse suivante a.chapalin, C-H-A-P-A-L-I-N, a.chapalin, comme ça se prononce, C-H-A-P-A-L-A-I-N, a.chapalin, @éléphant, sans les accents, éléphant-du-milieu, CIE, compagnie, donc, .com. Donc, je répète, a.chapalin, @éléphant-du-milieu, CIE, .com, a.chapalin, @éléphant-et-compagnie.com. Voilà, c'est ça que... C'est comme ça que ça doit se dire. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous avez envie de témoigner, que vous en avez marre de rester dans le silence, dans la clandestinité, et que vous souhaitez apporter votre témoignage, pensant que cela peut faire changer les choses, faire avancer les mentalités, eh bien allez-y. Voilà, je pense quand même qu'il faut rester prudent avec ce genre de programme de télévision. Voilà, tout ce que je dirais, faites attention, éventuellement si vous voulez y participer, demandez un droit de visionnage avant la diffusion sur le jour même, quoi. Voilà, c'est possible normalement, à partir du moment où vous êtes filmé, vous avez le droit de demander un visionnage du reportage monté, ou participer même au montage du reportage avant sa diffusion. Alors je sais que c'est du travail, il faut se rendre disponible parce qu'il faut se déplacer, il faut aller à Paris, etc. Des fois ça vaut vraiment le coup de le faire parce que le résultat est quand même pas tout à fait le même. Mais bon, je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Ah oui, j'ai pas dit, c'est quand même important. Apparemment ce genre de reportage, c'est pour faire témoigner donc des usagers qui assument leur consommation, et le sens du reportage serait plutôt de montrer justement des usagers qui en ont marre de la situation et qui voilà, en ont marre d'être considérés comme des malades ou des délinquants, et qui veulent revendiquer leur statut de citoyen, tout simplement, de citoyen cannabinophile. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Si seulement on pouvait vraiment avoir confiance dans les médias, ça serait bien, même malheureusement, c'est pas toujours pareil. C'est pas toujours le cas, on le sait bien. Voilà, un peu pour ce qui est de l'appel à témoignage de cette émission présentée par Harry Roselmack, une émission qui s'appelle 7 à 8 sur TF1. Voilà, voilà. Bien, ensuite, on va parler de cet article du Figaro.fr intitulé « Les terroristes n'étaient pas drogués ». Alors, on a pu entendre, on a pu lire dans la presse que une espèce de rumeur comme ça, comme quoi les gens qui partaient en Syrie, qui ensuite commettaient des attentats ou qui pouvaient en commettre, pour pouvoir le faire et se sentir fort, tout puissant, blablabla, un peu tout ce qu'on a entendu, et ben ils utilisaient des drogues. Et parmi ces drogues, on a souvent entendu parler d'un produit qui s'appelle le Captagon, par exemple. Et donc, suite aux attentats du mois de novembre, la police scientifique a fait effectuer des tests d'expertise toxicologique. Elles ont été effectuées sur les 9 terroristes du 13 novembre, et ainsi que sur une des jeunes filles d'un des terroristes, Asna Aïd Boulassen, afin de déterminer si effectivement ils avaient utilisé des substances psychotropes. Et il s'avérerait que non, finalement, ou très peu. Alors, on aurait trouvé des traces infimes de cannabis dans le sang d'un des protagonistes. Le résultat aurait pu découler d'une prise assez régulière, nous dit-on, on ne sait pas plus. On aurait également retrouvé des traces de cocaïne dans l'organisme donc de Asna Aïd Boulassen, la cousine d'un des protagonistes, qui apparemment, d'après cet article du Figaro, est une ex-grande fêtarde. Hormis ces deux individus, les résultats sont formels. Les personnes n'auraient consommé ni alcool ni stupéfiant avant de passer à l'acte. Voilà, encore un, j'ai envie de dire un mythe, voire même un fantasme qui est démonté. C'est assez récurrent d'ailleurs. On entend ça assez régulièrement lorsqu'il s'agit de comportements ou de conduites que l'on considère comme étant extraordinaire, anormal, pour que les individus puissent les commettre, il faudrait qu'ils soient shootés, en fait. Eh bien, là, en tout cas, c'est pas vrai. Et il y a d'autres situations beaucoup moins tragiques et dramatiques, hein, où on invoque souvent ce genre d'arguments, quoi, voilà, d'usage de substances. Qui donnerait le courage, en fait, aux individus pour commettre des actes pas conventionnels, voire là, carrément criminels. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, alors on va maintenant se pencher sur le sujet, ou en tout cas l'un des sujets les plus importants de l'émission de ce soir, à savoir la consommation de drogue dans les lycées, et notamment le fait qu'elle ne cesserait d'augmenter. cet usage de drogue. Donc deux articles pour évoquer tout ça, un article de BFM TV et d'RMC, un article de France Soir également. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut lire d'extraordinaire dans cette étude? Voilà, donc c'est une étude annuelle qui est effectuée par la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, la DEPP, une institution qui dépend du ministère de l'Éducation nationale, et qui souligne dans sa dernière parution que la progression constante des incidents de consommation de stupéfiants dans les lycées avait donc augmenté. Ils atteindraient 3,8% du total des incidents contre 1,5% entre 2010-2011. Tout ça dans les collèges et les lycées confondus. Hein. Pour les seuls lycées généraux ou polyvalents, ils représentent désormais 10% du nombre total des incidents contre 4% 3 ans auparavant. Alors, est-ce que ça a vraiment augmenté ou est-ce qu'on se soucie beaucoup plus de ce genre d'actes et que du coup on met la loupe vraiment dessus ou le projecteur dessus, ben on laisserait plus rien passer, donc c'est mieux recensé. J'en sais rien, c'est pas dit dans l'article de France Soir ni même dans celui de RMC BFM TV. Alors c'est nuancé par exemple Michel Richard, qui est le principal d'un collège à Versailles et qui est secrétaire général adjoint du principal syndicat des chefs d'établissement, le SNPDEN. Donc ce monsieur Michel Richard dit que oui, il y a une progression, mais on partait d'un niveau très bas. Donc, on nous explique également que par rapport à ce constat de hausse, les équipes pédagogiques ont accru leur vigilance. Monsieur Richard déclare « Nous sommes attentifs aux changements de comportement, comme par exemple un décrochage au niveau des notes ou l'absentéisme. » Et on nous dit plus loin que voilà, car la consommation de cannabis, si elle n'a pas lieu le plus souvent au sein des établissements, peut avoir des répercussions sur l'avenir scolaire de l'enfant. Les adolescents de moins de 17 ans qui fument du cannabis tous les jours ont un risque accru de 60% de ne pas terminer leurs études secondaires et de ne pas réussir l'examen final par rapport à ceux qui n'en consomment pas. C'est ce que disait une étude australienne parue en 2014 dans la revue médicale de Lancet Psychiatry. Je crois savoir d'où vient cette étude. Voilà. En France, les chiffres collectés auprès des jeunes de 17 ans lors de la journée de l'appel à la préparation à la défense montrent que la consommation de cannabis est repartie à la hausse. Un jeune sur deux dit l'avoir expérimenté, selon l'enquête de 2014, et près d'un sur dix en consomme régulièrement. Lors de la précédente enquête en 2011, ils étaient 41,5% à déclarer l'avoir expérimenté, pardon, et 6,5% en consommer régulièrement. Des chiffres qui mettaient fin à 11 ans de baisse depuis 2003. L'OFDT explique d'ailleurs que cette remontée par une recrudescence de la consommation des jeunes femmes. Voilà, c'est pour ça que les statistiques augmenteraient, qu'il y a une féminisation de la consommation du cannabis. Voilà, bon. Donc je ne reviens pas sur cette proposition de Valérie Pécresse de financer des tests de dépistage dans les lycées, la nomination d'un référent addiction. Voilà, des propositions qui sont critiquées par un syndicat étudiant qu'on verra tout de suite après l'article de BFM TV. Voilà. Donc toujours ce Michel Richard du syndicat national des proviseurs dit cette chose qui est quand même intelligente. Il dit que l'usage du cannabis se retrouve dans tous les milieux sociaux et pas uniquement dans les quartiers défavorisés, parce que ben voilà, pour pouvoir s'offrir du cannabis ou des drogues, il faut pouvoir se le payer, donc il faut quand même des ressources. Voilà un petit peu ce qu'on peut lire dans cet article de France Soir, pardon. Voilà, maintenant on va voir un petit peu ce qui se dit ensuite de RMC BFM TV. Alors là, on donne un peu plus la parole aux lycéens. Alors, des lycéens qui sont interviewés par les journalistes. Barnabé et Romain, deux lycéens de 16 ans qui fument, d'après l'article, plusieurs joints par jour. Et il y en a qui dit, la pause de midi après les cours, et parfois, si on a une heure de permanence, on sort pour se rouler un joint. Déclaré l'un d'eux, la beuh, la ganja, c'est plus facile d'en trouver qu'avant. Un autre qui dit, je m'en procure au lycée, sinon généralement je vais à Paris, il y en a partout. Pas besoin de faire des kilomètres pour trouver un morceau. Voilà, une jeune fille qui s'exprime par rapport à ses copains, qui dit, la jeunesse d'aujourd'hui, elle aime ça en fait. Ils aiment fumer, ils aiment se détruire. Et ça ne leur fait pas peur. Pour certains, c'est devenu banal, regrette-t-elle. Alors on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que tous ces jeunes aient envie de fumer du cannabis Alors, des explications là sont avancées. Toujours ce même Michel Richard, membre du principal syndicat des chefs d'établissement, il nous parle d'un contexte en fait. Il y a une époque, une époque dans laquelle on vit, qui est plus anxiogène qu'épanouissante. Mais aussi le fait qu'il y ait de plus en plus de familles qui sont en voie de séparation. Il y a aussi la pression de la réussite scolaire qui peut être très forte dans certains milieux, ou le fait qu'un certain nombre de jeunes ne se voient pas d'avenir radieux. Donc pour ce monsieur Richard, il faut un peu relâcher la pression. Hein. Quelque part, le fait de ne pas avoir de perspective peut amener un adolescent à aller chercher ailleurs la satisfaction de l'existence qu'il n'a pas, nous dit-il. Pour aider ces jeunes à aller mieux, à se détourner du cannabis, monsieur Richard suggère un allègement de la pression des résultats dans les écoles, mais aussi plus de communication entre les parents et les enseignants. Voilà, maintenant la réaction de la FIDEL, le syndicat lycéen, qui réagit, et qui réagit notamment suite à l'annonce d'un des élus des Républicains, Éric Ciotti, qui voulait faire un dépistage... un dépistage du cannabis aussi dans les lycées, un peu comme sa consœur Valérie Pécresse. Donc voilà, je vous lis le communiqué de presse de la FIDEL qui est très intéressant, qui est très bien. Donc la FIDEL, voilà. Pour nous, cette proposition n'apporte qu'une réponse répressive et délaisse l'action pédagogique et préventive sur ce sujet. De plus, le secret médical rend caduque l'application de cette proposition. Pour autant, le problème de la consommation de cannabis est bien présent dans les lycées. En effet, les lycéens et les jeunes, de manière générale, se tournent de plus en plus vers ce genre de produit qui leur sert souvent d'échappatoire à des situations familiales et sociales compliquées. La peur d'un avenir compliqué et incertain en est aussi la cause dans notre société. L'accès de plus en plus simple à cette substance, malgré des années de politique répressive, démontre bien l'inefficacité des méthodes mises en place. La FIDEL, le syndicat lycéen, propose de donner un cadre légal à la vente ainsi qu'à la distribution du cannabis en France. En effet, cela permettrait à l'État d'avoir un contrôle sur les modes de consommation ainsi que sur la composition des produits vendus et donc d'avoir une garantie sanitaire. Lorsque l'on vit dans le pays le plus gros consommateur de cannabis en Europe et où un tiers des adultes en ont déjà consommé, le débat doit être posé de manière sérieuse et sans hypocrisie. Il est temps de se rendre compte que la consommation de cannabis n'est pas plus dangereuse que la consommation d'alcool et que des usages thérapeutiques sont déjà reconnus scientifiquement dans certains pays pour traiter des cancers. Cette légalisation permettra de financer et de mener des programmes sérieux de prévention concernant l'usage précoce et ou abusif du cannabis ainsi que des dangers du passage aux drogues dures. Ce sera également le moyen de stopper les marchés parallèles et donc de faire reculer l'insécurité dans les quartiers touchés par ces trafics. Pour la FIDEL, le syndicat lycéen, un grand débat national sur un cadre légal concernant le cannabis doit être lancé en concertation avec les professionnels de la santé ainsi que les associations qui travaillent sur ce sujet. Voilà. Alors bon, ce qui est peu exposé ici, c'est quand même le contexte dans lequel ces jeunes consomment du cannabis. Hein. Encore une fois, on rappelle que la prohibition des drogues, finalement, c'est l'ultralibéralisme. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle des produits, il n'y a pas de contrôle de ceux qui en font commerce. Et forcément, ça ne devrait pas exister. Mais comme ça ne devrait pas exister et qu'il ne doit pas y en avoir, en fait, il y en a de partout. Et n'importe qui peut s'en procurer à n'importe quel moment. Donc oui, effectivement, des jeunes, notamment des lycéens qui peut-être ne sont pas majeurs, peuvent se procurer très facilement du cannabis, et voire même plus facilement que de l'alcool qui est légal. Donc voilà, tout ça, c'est quand même déterminant aussi. Et dans un système de réglementation et de contrôle où les mineurs n'ont pas le droit d'en consommer, les choses seraient certainement différentes. Mais bon, voilà, on a choisi la prohibition, donc le tout libéral, finalement l'ultra-libéralisme sauvage. Et donc tout le monde peut en acheter à peu près quand il veut. Voilà, c'est comme ça, et ben il faut assumer, ou alors on change de paradigme, et c'est ce qui va finir par se passer, hein, quand on voit quand même ce qui se passe au Canada depuis quelques mois, avec un système de légalisation qui devrait être mis en place prochainement par le nouveau Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Voilà, on y reviendra un peu plus loin dans cette émission. Voilà. Allez, tout de suite, on s'écoute un peu de musique avec Sinsimilia, tout de suite.
J'ai pris des vices avec des listes par vis. Par plaisir, éclater en complément de nos délires ou pour tuer l'ennui, voire pire. Oh, les souvenirs enfumés, on en a par dizaines, par centaines et même par milliers. Une partie de notre vie, alors oui, délié. Je veux jamais nier ni renier, même pas face aux douaniers.
À ta santé,
passe le temps, mais j'ai rien oublié.
Rien.
Et dans ces souvenirs, du bon comme du mauvais, c'est ce qu'on vient relater. Pas pour s'en vanter ni inciter. C'est l'histoire des jeunes fumeurs. Viens compter histoire de ganja. Au micro Sinsimilia, dans le spiff, n'est la familia. Histoire de ganja. Au micro Sinsimilia, on s'en cache pas, mais ça en vend pas. Histoire de ganja. Au micro Sinsimilia, dans le spiff, n'est la familia. Histoire de ganja. Au micro Sinsimilia, on s'en cache pas, mais ça en vend pas.
Sur le dos.
Sinsimilia, histoire de ganja. Eh bien, histoire de ganja aussi à Quimper. Un petit bref comme ça, un petit fait divers. C'est l'histoire d'un homme qui ne s'est pas rendu à son stage de sensibilisation obligatoire. Stage de sensibilisation au danger de l'usage des stupéfiants. Qui a été rattrapé par la justice, visiblement. Donc, à deux reprises, en fait, il a raté son stage, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Voilà, alors il s'est défendu au tribunal. Hein. J'étais en examen la première fois, au mois de mars, dit-il. Cela m'était un peu sorti de la tête. Puis il a manqué un deuxième rendez-vous. Et là, il dit, je venais de changer de directeur au boulot. Hein. Et je me voyais pas lui demander une absence pour ce motif. Donc, ce jeune homme qui, visiblement, d'après la description de West France, semblait un jeune homme un peu fragile, ou en tout cas un peu en difficulté. Il s'est présenté au tribunal avec dans la main deux feuillets et qu'il a lu. Voilà, il a lu au tribunal devant le juge qui lui a laissé s'exprimer, heureusement. Donc, petite lettre dans laquelle il raconte sa vie, ses petits boulots d'ado, sa famille, son travail et les quelques erreurs qu'il a commises par le passé et ainsi que ses regrets. Voilà. Eh bien, ça n'a pas visiblement ému le tribunal. Bon, il a quand même écopé de 400 euros d'amende qu'il devra payer en plus du coût du stage qui s'élève également à, ça dépend, 250-450 euros selon les endroits. Donc, bon. Voilà, si vous êtes poursuivi et qu'on vous propose un stage de sensibilisation au danger de l'usage des stupéfiants, vaut peut-être mieux y aller. Ça évite de se prendre une amende supplémentaire, voire pire, parce que bon, là, il a été poursuivi et il a écopé que d'une amende, mais on sait que parfois, selon les situations, il est possible de se voir condamné à de la prison ferme, quoi. Donc, faut pas jouer avec ça. Voilà, donc encore une fois, soyons prudents, faisons attention. Voilà, après ce petit fait divers, on va maintenant s'intéresser à cet article de l'Express de la semaine dernière. Un article intitulé « Drogue, 18 mois après, où est passée la coke volée au 36 quai des Orfèvres ?» Voilà, c'est quoi le 36 quai des Orfèvres? C'est le siège de la police judiciaire de Paris, ni plus ni moins. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on en a parlé un petit peu l'année dernière. Il y a eu de la cocaïne donc, qui a été volée dans les locaux du siège de la police nationale. Il y avait eu des enquêtes qui avaient été menées par la police où il s'avérait quand même qu'il y avait un policier ripoux, un indic qui était en fuite. Et on se demande maintenant s'il n'y a pas en plus un trafiquant de drogue dominicain qui serait de mèche avec un des policiers ripoux. Enfin bon, bref, tout ça reste bien évidemment à déterminer grâce à une enquête. Dans cet article, on a l'impression que ça patauge un peu. Tout se passe 18 mois après. On est 18 mois après, en fait, après le vol de... Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais c'est pas des petites quantités de coke. C'est quand même 52 kilos de cocaïne qui ont été volés. Alors, j'avais oublié la quantité, mais c'est quand même une quantité rondelette. Donc, ça représente également une valeur de 2 millions d'euros à la revente. C'est un vol qui a été perpétré dans la nuit du 24 au 25 juillet 2014, donc il y a un an et demi. Et le vol avait été filmé par les caméras de vidéosurveillance. Ça, je ne me rappelais plus non plus. Le suspect était un homme, nous dit-on, peut-on lire dans l'article, à la silhouette mince et athlétique, reconnu par plusieurs collègues. Et il s'agissait donc d'un de leurs collègues, monsieur Guyot, 34 ans, policier en poste depuis 2010 à la brigade des stupes de Paris.
Ce monsieur a ensuite été interpellé le 2 août 2014 à Perpignan. Il a été mis en examen. Il serait toujours en détention provisoire. Voilà. Mais il y a quand même 9 autres personnes qui sont poursuivies, dont l'épouse de ce monsieur Guyot et 5 autres policiers. Voilà, c'est pas rien. L'ex-brigadier qui se retrouve en détention a tenté de se suicider depuis. Lui, il conteste les faits, et notamment le fait que ce serait lui qu'on aurait vu entrer et sortir dans les locaux de la police. Les déclarations de ceux qui disent l'avoir reconnu sont visiblement pas très cohérentes non plus. Son avocat dit on veut fabriquer un coupable sur des indices et on ne travaille pas sur l'hypothèse que cela pourrait être quelqu'un d'autre. Certes. On se pose également d'autres questions. Est-ce que ce policier n'aurait pas non plus agi pour le compte du milieu? Il serait soupçonné d'être impliqué dans un trafic de drogue plus vaste avec d'autres collègues alimentés par de la marchandise volée lors de perquisitions ou aussi dans des scellés. Les juges ont mis en examen M. Guillot pour le vol de 1200 euros, mais également 1 kg de cannabis et 129 grammes de cocaïne saisis en mars 2014. Donc avant, en fait. Visiblement, la police et la justice supposent qu'il y aurait peut-être eu plusieurs affaires. On se pose également la question de savoir s'il n'y aurait pas eu une volonté d'écouler cet argent dans le cadre de trafic. Mais voilà, il y a d'autres éléments qui viennent se greffer là. Alors, en ce qui concerne les produits saisis dans le cadre de perquisitions, apparemment il y a un des policiers qui dit que son collègue tapait dans les perquisitions. Un autre de ses collègues dit qu'il l'avait sollicité pour écouler de la marchandise. D'autres notes dans le dossier sont là pour expliquer que apparemment ce policier, d'après les témoins, faisait ça pour rémunérer des informateurs, mais on peut penser qu'il y a eu aussi de l'enrichissement personnel. Ah bon? Et pourquoi? Ce monsieur Guyot, policier, il gagnait 2500 euros par mois. Avec cette somme, avec son salaire, il a pu faire des choses totalement légales, c'est-à-dire acheter des appartements, contracter des crédits bancaires, tout ce qui est de plus légal, légalement bien sûr. Mais par contre, on aurait trouvé d'autres sommes d'argent en liquide, notamment 9000 euros à son domicile, 16000 euros dans un des sacs à dos, et le frère du brigadier a reconnu également avoir récupéré 200000 euros entreposés chez un proche de son frère, qui les aurait ensuite cachés au fond et autour du lac de Créteil. Voilà, quelle histoire, franchement. Il aurait fait ce que son ami lui demandait, sans poser de questions. Voilà. Alors, l'affaire prend ensuite, nous dit-on, un tour rocambolesque, puisque ce policier, M. Guyot, a rencontré en prison un certain Christophe Rocancourt, un malfrat connu des vedettes, un l'escroc des stars, tel qu'il est surnommé, et qu'apparemment, ils auraient peut-être discuté pour faire ensemble quelque chose, du business, mais apparemment, ce monsieur Rocancourt avait une autre vision des choses et ils n'auraient pas travaillé ensemble. Ce monsieur Rocancourt, visiblement, n'aimait pas trop l'entourage de ce policier qu'il disait qu'autour de lui, il y avait des salopards, des pommes pourries et des sales mecs. Les sacs qui ont été jetés dans le lac de Créteil n'ont pas été retrouvés, ni autour, d'ailleurs. Beaucoup de zones d'ombre. Donc, finalement, tout ça pour dire que... Il semble quand même assez évident que là, les policiers étaient quand même mouillés dans une affaire de revente de produits qui saisissaient et que visiblement ça a rapporté à l'un d'entre eux. Ça veut dire que parmi ces policiers, il y en a qui étaient assez ripoux. Est-ce que c'est si extraordinaire? En fait, non, parce que quand on regarde encore une fois dans les annales de la corruption policière au niveau de la lutte contre le trafic de drogue, c'est un grand classique en fait. Donc corruption, policier ripou, manip entre policiers et dealers. Bon, voilà. Donc encore une fois, une seule solution pour éradiquer tout ça. Sortie de la prohibition, le contrôle et la légalisation et le contrôle de tous ces produits selon leurs spécificités, bah, parce que sinon on s'en sortira jamais. Voilà un peu la leçon qu'on peut tirer de tout ça, quoi. Bon, on va quitter maintenant l'Europe et notamment l'Hexagone pour traverser l'Atlantique et retourner faire un petit tour au Canada. On va discuter d'abord de ce premier article publié sur ici.radiocanada.ca où en fait là Justin Trudeau, donc le premier ministre du Canada, le nouveau premier ministre, a demandé à un ancien policier de piloter le dossier de la légalisation de la marijuana. Voilà, donc on peut se demander que va faire la police ou que fait la police au Canada maintenant qu'on est sur le point de légaliser. Eh ben, la réponse est claire et nette. En fait, que fait la police au Canada? La police légalise le cannabis, tout simplement. Ça paraît assez incroyable vu d'ici, c'est sûr. Cet ancien chef de la police de Toronto, Bill Blair, qui avait été élu lors des dernières élections fédérales, est l'un des deux secrétaires parlementaires nommés au ministère de la Justice sur le dossier de la légalisation du cannabis. Alors dans cet article, c'est intéressant parce qu'on nous parle en fait de la propagande électorale faite par les conservateurs canadiens avant son élection, qui avaient tenté de coincer Trudeau justement, où en fait dans leur campagne de propagande, ils expliquaient que à cause de la campagne de légalisation de Monsieur Trudeau, eh ben on allait vendre de la drogue aux enfants. Voilà, on trouve un peu le même genre d'argument chez les prohibitionnistes français qui nous disent que si on légalise, on va retrouver du cannabis à la sortie des supermarchés, proche des caisses. Voilà, bon, c'est un peu le même genre. Hein. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans aucun contrôle, comme ça, on va vendre du cannabis n'importe comment et que ça va se retrouver dans les poches des enfants. Sauf que c'est pas du tout le projet de Justin Trudeau. Son projet justement de légalisation, c'est pour justement protéger les enfants et éventuellement pardon, même les adolescents. Je repense au premier article dont on a parlé dans cette émission à propos de la soi-disant hausse de la consommation de cannabis dans les lycées et les collèges de France. Justement, ce que veut faire Trudeau, c'est justement pour empêcher tout ça, c'est-à-dire empêcher que sans contrôle, les jeunes puissent se procurer du cannabis très facilement. Et Monsieur Trudeau nous dit, ce qui est très clair, c'est que l'approche de Monsieur Harper, qui était le président premier ministre, rend la marijuana trop facilement accessible à nos jeunes, tout en alimentant la criminalité de rue, les gangs de rue et les trafiquants d'armes. Voilà ce qu'a déclaré Monsieur Trudeau à Québec, en septembre dernier, durant sa campagne électorale. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle que Trudeau et ses amis libéraux continuent dans cette direction et qu'ils ne se sont pas découragés ou qu'ils n'ont pas eu peur qu'on les traite de laxistes comme on entend en France. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cet article? Que c'est pas forcément. Enfin, c'est assez surprenant finalement que ce soit la police qui s'en occupe. Il semblait qu'au départ, on confie la réglementation à une instance plutôt sanitaire, mais visiblement, c'est la police qui va quand même s'en occuper. Alors, toujours, il y a toujours des incertitudes qui demeurent quant à la façon dont le gouvernement va s'y prendre stricto sensu, en fait, hein, pour implanter la légalisation de la marijuana. On se pose également la question de savoir où est-ce qu'elle sera vendue, cette drogue. Comment est-ce qu'elle sera taxée? Que vont devenir les profits ainsi engendrés? Beaucoup de questions auxquelles on a déjà des réponses avec ce qui se fait au Colorado ou dans l'état de Washington. La plateforme électorale libérale prévoit qu'Ottawa travaillera avec les provinces et les territoires, de même qu'avec les fonctionnaires de la santé publique. voilà, aussi, mais pas que la police finalement, afin d'élaborer le fonctionnement du système. Monsieur Blair, qui est donc le policier, pourrait toutefois se retrouver en désaccord avec certains de ses anciens collègues, puisque on peut lire dans cet article que l'Association canadienne des chefs de police s'oppose toujours actuellement à la légalisation complète de la marijuana. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, il faut quand même savoir qu'il y a très très peu d'opposition au Canada avec ce projet de légalisation. Donc, le Parti conservateur s'est timidement, en fait, prononcé contre ce projet de loi du nouveau Premier ministre. Là, on parle de l'Association canadienne des chefs de police. Et il y avait une troisième instance, une troisième force d'opposition à la légalisation du cannabis au Canada. C'était les Hells Angels, qui avaient publié un communiqué de presse il y a 2 mois et demi pour dire qu'ils étaient opposés à ce projet de légalisation. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que ce sont les trafiquants et les criminels, et ils ont besoin de la prohibition pour continuer à faire leur trafic et leur business. Et du coup, ben, s'il y a une légalisation, leur business va s'effondrer. Voilà, c'est on ne peut plus logique. Allez, on s'écoute encore un dernier petit morceau de musique avant de finir cette émission. Et pour terminer, on va s'écouter un morceau de Gnawa Diffusion intitulé « Contretemps à la douane ». Tout de suite.
Baby, baby, baby. T'es bébé.
Fais fumer.
Légal ou pas légal.
Les aéroports, corps à corps, hardcore. Gnawa taki cardiffusion pour un peu de substance. Entouré de flop-flop qui mettent la top dans le slip. Des flop-flop qui flippent quand douanier dis fait un strip. Contre temps, contre temps, contre temps.
Ça c'est bien gentil, mais à l'aéroport d'Oslo tu ne faisais pas le barbeau.
Nul n'est à l'abri d'une micro-boulette.
Vraiment nos micros, nous on les avait à zéro.
Sur toute la planète tu peux fumer tes pedos. Alors le culte de l'olivin.
Le culte de l'olivin.
Le culte de l'olive, tu l'embrasseras bientôt.
Et les PH sont des barrages avec des chiens très galants. D'ailleurs étonnant de gentillesse quand on voit leur maître chien. C'est le Vietnam et les Ricains, la bataille de chiens bien fou. L'Europe n'a plus de frontières et ça lui fait un bien fou.
Et qu'est-ce que c'est que ces manouches là? Dans ce bus un peu louche là-bas. C'est les Gnawi Morstone, je crois. Impatient de prendre une douche. Un peu froide ce jour-là pour un peu de hashish. Sous l'effet duquel qu'on nous évitâme les escarmouches. Ils nous ont bien gonflés. On était gonflés à bloc. On est arrivé au concert. Et on a fait du hard rock. Plein de nerfs et d'énergie, on a mis 2 ou 3 filles en cloque. Ces douaniers ne savent pas toujours ce qu'ils provoquent.
Si t'en as plein les fouilles, si t'en as dans la couane, si t'as le flou et que tu douilles, t'as pas d'embrouille.
Soumise à l'honneur, le bon temps.
ta caisse qui rouille.
C'est bon pour la fouille.
Si les chiens flairent l'embrouille.
C'est bon pour la fouille.
Si t'en as.
Légalise, légalise.
Tout si t'en as.
Légalise, légalise.
Si t'as pas une bonne bouille.
C'est bon pour la fouille.
Si t'as les yeux qui dérouillent.
C'est bon pour la fouille.
Si t'as ta caisse qui rouille.
C'est bon pour la fouille.
Si t'as du flouze et que tu tombes.
Là non, t'as pas d'embrouille.
Exact. Nawa Diffusion, Contre-temps à la douane, un morceau inédit sur la compile 00 du cirque. Voilà, on va terminer, il nous reste un peu moins de 5 minutes sur alors cette fois-ci on a vu le Canada, on va parler un peu des États-Unis. Alors non, toujours le Canada avant d'avancer. Alors au Canada comme il parle de légaliser, les langues se délient un peu partout, on se pose des questions qui, d'ici, vu de France, nous paraissent absolument hallucinants. C'est un article de Slate.fr intitulé « Au Canada, un gros débat a eu lieu pour savoir si le cannabis thérapeutique est cachère ». Oui, vous avez bien entendu, ce genre de polémique n'est pas prête d'arriver en France, mais outre-Atlantique au Canada, pour être précis. La question a été posée, la marijuana médicale doit-elle être cachère pour que les personnes de confession juive puissent en consommer? Voilà, c'est vrai que d'ici, ça nous paraît assez incroyable. Alors bon, plusieurs points de vue, je vais pas m'attarder des heures sur cet article, mais voilà, essentiellement, donc, Richard Rapkin, qui est directeur de l'agence de certification Kasher Med Relief, nous dit que voilà, quelque chose qui est médicinal, qui est prescrit par votre docteur dont vous avez besoin pour votre santé, n'a pas besoin d'une certification Kasher. Voilà, donc première approche, première façon de voir. Mais une autre décision également ne fait pas l'unanimité. C'est une autre agence, la Kosher Check, une autre agence de certification de Colombie-Britannique, a elle penché en faveur d'une certification des produits médicaux à base de cannabis. Donc là, il faut se mettre d'accord. En tout cas, voilà un peu le genre de débat qu'il y a en ce moment au Canada. Visiblement, c'est la légalisation du cannabis. Agite beaucoup les débats au sein de la communauté juive au Canada. Voilà. Ça paraît assez rigolo vu d'ici, mais bon, en tout cas, voilà, ça fait parler. Enfin, on va terminer là-dessus, un article de Science et Avenir, très dernièrement, là, du 6 janvier, intitulé « Le cannabis thérapeutique débarque à New York ». Voilà. C'est parti, en tout cas. Donc, quelle forme ça va prendre? Eh bien, ça va se passer dans le Queens, au cœur de New York, donc au milieu d'autres entrepôts, voilà, sous une autoroute aérienne, un bâtiment situé dans le quartier du Queens, qui va abriter 23 000 mètres carrés dédiés à la culture du cannabis. Oh, et ouais, ça paraît assez incroyable. Alors, ça va paraître. Je vais faire tomber un peu l'enthousiasme, mais ces 23 000 carrés ne vont pas être dédiés à la culture du cannabis pour être consommés à des fins thérapeutiques. Mais non, pas du tout. Ces installations sont là pour cultiver du cannabis, mais en vue d'en faire des médicaments, tout simplement. Des huiles, des pilules ou des gouttes. Voilà, c'est à ça que ça va servir. On estime que à New York et dans la proche banlieue, ou même dans l'État de New York, on estime qu'il y aurait entre 0,5 et 1,5% de la population qui pourrait être éligible à l'achat de préparations de cannabinoïdes, de cannabis thérapeutique, soit entre 100 000 et 300 000 personnes. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Pour faire tourner l'installation abritée sous les 23 000 mètres carrés, il faut du monde quand même pour travailler, donc il y aurait une centaine de personnes qui auraient été embauchées pour travailler dans cet entrepôt.
Voilà. Voilà un peu. Donc c'est parti dans l'état de New York. On nous rappelle également dans cet article que 20 ans après la légalisation du cannabis à usage thérapeutique en Californie, 23 autres États et la capitale fédérale de Washington ont franchi le pas. Stephen Darmer nous dit que les choses bougent dans la bonne direction, tout en observant qu'il y a quand même toujours beaucoup de tabous autour du cannabis aux États-Unis. Faut quand même se rappeler que le cannabis et ses produits dérivés ne sont pas soumis au contrôle de l'Agence américaine des médicaments et de l'alimentation, la Food and Drug Administration, et que les études scientifiques concluantes manquent, nous dit-on. Mais beaucoup d'études soulignant les effets positifs du cannabis sont en tout cas en route pour contrer d'autres études qui parlaient d'addiction, des conséquences négatives sur la consommation. Mais en tout cas, voilà, ça change. On commence à avoir davantage d'études sur les effets positifs, se félicite Stephen Darmer. Il faut quand même savoir, et on finira là-dessus, que d'après un sondage réalisé en mai 2015 par l'Institut Harris, il faut quand même savoir que 81%, c'est beaucoup, 81% des Américains se disent favorables à la légalisation de la marijuana à usage médical. Voilà. C'est là-dessus que se termine Cannabis Circus en ce lundi 11 janvier 2016. Cannabis Circus présenté par le Cirque Lyon, que vous pouvez retrouver par téléphone au 06 11 53 10 07 si vous voulez nous téléphoner. Vous pouvez nous écrire à Cirque Lyon, BP 93 043 69 605 Villeurbanne CEDEX. On a aussi un site internet sur lequel vous pouvez vous promener, cirque-lyon.fr, avec toutes nos coordonnées. Et aussi, on est présent sur Facebook, sur Twitter. Voilà, c'est la fin de Cannabis Circus. Je vous souhaite une bonne fin de soirée avec Chasseur de Son, qui a reçu plein d'invités et que ça va être une super émission comme d'habitude. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Allez, bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous et merci de votre fidélité. Au revoir.